Neige et il neige toujours. Et je pense que vous êtes les courageux d'être venus ce matin malgré la neige. C'est vrai que ce matin nous avons beaucoup parlé sur faire le bien aux autres. C'est important de faire le bien, d'être miséricordieux, compatissant à l'égard de mon prochain. C'est vrai que si on résume un petit peu le commandement du Seigneur, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et dans cet amour du prochain, c'est normal d'aider celui qui est dans le démuni. Par contre, ce matin, dans la prédication, je vais mettre un peu plus l'accent sur qui nous sommes. Quel est le but ultime d'être chrétien? Quel est le but ultime de l'Église avant de faire le bien? Parce que faire le bien aux autres, ça doit être la conséquence de notre identité chrétienne. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire dans 1 Pierre, chapitre 1, les deux premiers versets que j'aimerais vous lire. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis et qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu, le Père, dans la consécration de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Jusqu'ici notre lecture. Dans cette lecture des deux premiers versets, on voit que nous sommes tous des étrangers. Des étrangers dans la dispersion. L'expression « étranger dans la dispersion » doit probablement se comprendre de façon surtout métaphorique. Chaque chrétien est étranger, chaque chrétien est exilé, chaque chrétien est voyageur sur la terre. Même si nous vivons en France, vous êtes la plupart des Français. D'ailleurs, moi-même, j'ai fait une demande pour devenir français. Enfin, je vais bientôt, probablement, devenir français cette année. Mais notre patrie, la France, n'est pas notre vraie patrie. Notre vraie patrie, c'est le monde céleste, le royaume de Dieu. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, nous voyons aussi des expressions comme quoi nous sommes des étrangers sur terre. Abraham avait confessé devant les étrangers, enfin devant les citoyens du pays, qu'il était un immigré et un résident temporaire chez eux. Et puis lorsque nous voyons aussi l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons aussi qu'ils avaient été des étrangers durant toute leur vie. Vous savez que depuis Abraham, ils ont fait que de mener une vie de nomade. Ils ont vécu en Égypte, ensuite, après la persécution, ils ont fui l'Égypte pendant 40 ans dans le désert, ils ont erré. Et ensuite, lorsqu'ils se sont installés dans la terre promise, ce n'était pas non plus leur vrai pays. Et puis, ils étaient souvent attaqués, ils ont été même parfois exilés dans d'autres pays, comme à Babylone. Ils ont souffert et ils ont connu cette diaspora aussi. De même, pour nous, les chrétiens, je pourrais dire aussi que nous sommes en exil parmi les gens des nations, au milieu desquels ils doivent avoir une belle conduite. D'après Jérémie, oui, nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Notre vraie patrie est là-haut. Pendant ce temps, nous devons justement vivre en tant que citoyens du ciel. Alors, je disais, j'ai introduit ma prédication en disant que, oui, quel est le but ultime d'être un exilé, ou plutôt un citoyen qui espère le royaume des cieux? Quel est le but de chrétien? Quel est le but de l'Église? Pourquoi l'Église existe? Est-ce qu'elle existe parce que pour subvenir aux besoins du pasteur? Ou, non, c'est pas ça du tout. Est-ce que l'Église existe pour construire des bâtiments ou faire le bien aux autres? Ce n'est pas le but non plus ultime. Aider les pauvres n'est pas non plus la raison de l'existence de l'Église. toutes les activités de l'église, que ce soit le concert que nous allons faire la semaine prochaine ou encore le culte que nous faisons ce matin, ou les flambeaux qui font pas mal d'activités, le groupe de jeunes, la banque alimentaire, l'aide sociale, toutes ces activités de l'église doivent se converger pour un seul but, le salut de l'âme. Ça doit être ça, le but ultime pour la vie éternelle. D'ailleurs, on voit effectivement le but de toute cette existence de l'Église. Dans 1 Pierre 1, verset 9, il est dit « Vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre âme, le salut de votre être. » ça doit être ça notre but ultime. Et une fois que nous connaissons cette identité d'étranger, une fois que nous connaissons notre but de salut, Dieu a décrit à travers l'épître de Pierre 6 impératifs. D'ailleurs, lorsque nous lisons les deux premiers chapitres de 1 Pierre, en français, il y a plusieurs impératifs. Par contre, il faut lire en grec pour mieux relever les 6 impératifs que Dieu nous impose. Tout d'abord, nous avons déjà prêché là-dessus sur les 6 impératifs il y a à peu près 2 ans de cela, et assez longuement, de manière assez détaillée, avec beaucoup de détails. On va essayer de voir assez succinctement ce que le Seigneur nous ordonne de le faire. Tout d'abord, il faut espérer. Il faut espérer. Dieu nous dit espérer. Dans 1 Pierre 13, il est dit: c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Espérez. Ce n'est pas très bien relevé en français courant, mais en grec, il est bien dit espérez. Espérez dans la grâce. Espérez que le Seigneur reviendra. Espérez que... Qu'est-ce que ça veut dire espérer d'ailleurs? On espère quoi? Hein? On a une certaine attente, n'est-ce pas? Autrement, et avant de dire espérer, il a bien expliqué que saigner les reins de votre entendement, ça veut dire que, vous savez, à l'époque de Jésus, les vêtements au temps des apôtres étaient essentiellement constitués d'une robe ou d'une toge, et que c'était pas très pratique. Il fallait vraiment saigner, cindre. Il fallait cindre justement pour qu'on ait un mouvement beaucoup plus agile, plus facile. Les anciens relevaient donc leurs vêtements et les attachaient autour de leur taille lorsqu'ils devaient travailler ou encore aller combattre les autres. Et de la même manière, le Seigneur nous dit il faut cindre les reins de votre entendement, de notre pensée. Il faut être prêt. Ça veut dire il faut être prêt. Il faut être prêt. Prêt de quoi? Prêt à recevoir Jésus-Christ qui reviendra. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes vigilants de cela? Êtes-vous prêts? Dans Matthieu 25, il est dit « Alors le royaume des cieux ressemblera à l'histoire de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et sortirent pour aller à la rencontre du marié. » 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient raisonnables. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leur lampe, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d'huile avec leur lampe. Or, le marié tardait à venir, comme le Christ tarde à venir. Les jeunes filles eurent tout sommeil et s'endormirent. À minuit, un cri se fit entendre. Voici le marié, sortez à sa rencontre. Donc il y aura des signes comme quoi, oui, le Seigneur arrive bientôt. Il y aura des signes, même de nos jours, on voit des signes là, de ce genre. Alors, ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux raisonnables, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les raisonnables répondirent, non, car il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Vous ferez mieux d'aller au magasin en acheter pour vous. Les imprévoyants partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arriva et les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvre-nous !» Mais le marié répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Autrement dit, Jésus est en train de dire que préparez-vous, ou plutôt, il est en train de dire, en fait, soyez déjà prêts. Soyez déjà prêts. Est-ce que nous sommes des vierges folles ou des vierges sages? Est-ce que nous sommes des imprévoyantes ou des raisonnables? Vous savez que les dix jeunes filles, attendaient toutes la venue du marié. Hein? Je dirais même, il y a beaucoup de chrétiens qui croient à la venue de Jésus, mais certains préparent et d'autres ne préparent pas du tout à cette venue. Ils vivent comme si le monde actuel était la fin du monde. Or, nous savons tous que nous avons notre patrie céleste là-haut. Ça, c'est donc la première impératif que Dieu nous réclame, espérer la venue de Jésus. Espérer, vivez en espérant ce jour. Et à cause de cette espérance, d'ailleurs, que nous pouvons surpasser les épreuves. Deuxième impératif, c'est verset 15, « Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. » Nous sommes appelés à être saints. Nous sommes appelés à être mis à part pour le service de Dieu. Quand nous voyons un petit peu l'histoire du peuple de Dieu, ils étaient souvent rebelles, hein, que ce soit pendant leur voyage en Égypte ou pendant 40 ans dans le désert, ou encore même après être installés sur la terre promise. Josué donc a mené pendant 5 ans la guerre pour acquérir certains terrains, et ensuite pendant 15 ans, il a fait le partage des terrains et les différentes tribus ont pu s'installer. Et puis, ce qu'il remarque, c'est que le peuple de Dieu est rebelle. Et à la fin, il dit, mais craignez l'Éternel, servez-le dans la perfection, en toute sincérité, dans Josué 24, 14. Éloignez les dieux que servent vos pères au-delà de fleuves en Égypte, et servez les Yahvé, servez l'Éternel. Et puis, il dit encore, si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendez votre culte. Par exemple, ceux que votre ancêtre adorait de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux de Amori dont vous habitez le pays. Voilà, il y a plusieurs dieux que vous avez côtoyés. Hein? Ce n'est pas le vrai dieu, mais si vous voulez choisir, choisissez ce dieu-là, au lieu de faire des compromis avec le monde et l'Éternel. Jusqu'à quand vous allez chevaucher, vaciller? Jusqu'à quand vous allez aller d'un côté à l'autre? Hein? Et il dit à la fin, mais moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Nous servirons le Seigneur. Souvent, quand je fais des suivis, il y a des gens qui aiment le monde. Ils disent que j'aimerais être cool dans le monde. Hein? Vous savez ce que ça veut dire un peu? Cool. C'est comme si, voilà, en fait, on ne voit pas trop votre identité chrétienne. Hein? On peut faire des compromis avec le monde. On accepte certaines choses. Hein? Mentir ou voler même. Ce n'est pas grave si c'est pour le survie de votre famille. Alors que Dieu nous dit, non, il faut quand même vivre selon la parole de Dieu. Soit on vit pour le Seigneur en ayant une vie mise à part, où on vit dans le monde, on ne fait pas les deux en même temps. Si vous chevauchez entre les deux, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que nous n'appartenons pas au Seigneur. Le Seigneur a dit, soit vous êtes... comment on dit ça? Voilà. Chaud, froid, voilà. Vous êtes chaud, soit vous êtes froid pour le Seigneur. Il ne faut pas être tiède. Vous savez, vous connaissez la densité du sel dans la mer? Hein? 33%? Qui dit mieux? C'est... Il y a le chiffre 3. Ah non, pas la mer morte, non, non. La mer, en général, c'est 3,5%. Elle, c'est tout. 3,5% de densité de sel dans la mer, et on voit que c'est salé. Quand on goûte, c'est salé. 3,5% suffit pour transformer le goût de l'eau de la mer. Ça veut dire quoi? Je pense que les chrétiens dans le monde sont plus que 3,5%. Si les chrétiens, tous les chrétiens du monde, assumaient leur rôle de lumière et de sel, le monde serait vraiment transformé. Et le Seigneur nous appelle justement à être lumière et sel dans ce monde. Nous sommes appelés à montrer l'exemple, etc. Bien sûr, je ne vous dis pas tout cela d'un estal, hein, en disant que je suis saint, alors soyez imitez-moi, quoi. Non, c'est pas ça du tout, hein. Je suis aussi pécheur. Je dois même lutter pour vivre selon la volonté de Dieu, pour pratiquer ce que le Seigneur me dit. D'ailleurs, il faut de l'aide de l'Esprit de Dieu. Il faut d'ailleurs intercéder les uns les autres pour que nous puissions vivre ce rôle de lumière et de sel, pour mener une vie sainte. D'ailleurs, j'aime bien cet exemple. Lorsque nous acceptons le Christ, c'est comme si nous avons... Enfin, c'est comme si on se marie avec le Seigneur. Nous sommes en train de préparer le baptême avec les candidats. Et là, on leur a enseigné en disant que oui, le baptême, c'est comme si, voilà, on se marie. C'est une déclaration de mariage avec le Seigneur. Et une fois que nous avons fait cela, on va pas... Enfin, une fois que je me suis marié avec Laetitia, je ne vais pas me rappeler de mes ex. Non, mais ne souriez pas. Hein. Mais voilà, je ne vais pas me dire, mes ex, elles étaient bien, elles étaient gentilles, elles étaient encore plus gentilles que Laetitia, etc. Non, pas du tout. Quand vous vous engagez, on s'engage pour de bon. Lorsqu'on s'engage pour le Seigneur, il faut oublier aussi la vie de notre passé. On s'engage pour que le Seigneur intervienne, nous transforme. Vous appartenez au peuple de Dieu, par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous, dans Éphésiens 5:3. Dans Éphésiens 5:5, il est dit, « Sachez-le bien, aucun autre immoral, impur ou avare, car l'avarice, c'est de l'idolâtrie, n'aura jamais part au royaume du Christ et de Dieu. » D'où le Seigneur nous demande de se repentir, d'être plus saint, ressembler à notre Dieu. Voilà le deuxième impératif que le Seigneur nous demande de faire. Le troisième impératif, dans verset 17, dans 1 Pierre, verset 17, 1, verset 17, « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Oui, nous vivons dans ce temps de pèlerinage et le Seigneur nous invite vraiment à nous conduire avec crainte. Chaque jour, nous devons remettre en question en se disant, est-ce que si je vis comme ça, est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je demeure dans la présence de Dieu ou pas? Est-ce que Dieu dirige ma vie? Est-ce que c'est lui qui est le chef de ma vie? C'est bien de se poser la question, parce que le Seigneur nous dit à nous-mêmes, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Hein? Parfois, il y avait un frère qui m'a dit, écoute, moi je ne sais pas si je suis vraiment sauvé, parce que parfois je suis dans le péché, etc., etc. J'ai dit, c'est bien de se poser la question, c'est bien de se remettre en question, parce que c'est important. Et que, d'ailleurs, l'apôtre Paul disait que j'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Nous sommes appelés à combattre jusqu'au bout pour garder notre foi. Et c'est bien de se remettre en question. Et c'est surtout, c'est bien de se conduire avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage. Ça, c'est la troisième impératif que le Seigneur nous ordonne de le faire. Et puis, quatrième impératif, que nous connaissons bien, aimez-vous ardemment les uns les autres. L'amour est vraiment très important. Je vous dis tous ces impératifs en vous rappelant que les impératifs sont quoi ? C'est un ordre. C'est pas quelque chose, c'est pas une option. C'est quelque chose qu'on doit vivre, que Dieu nous ordonne de faire. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Depuis toujours, on parle de l'amour abondamment, même dans le monde. Mais le vrai amour, on n'en voit pas beaucoup. C'est comme si, lors de l'inondation, on est submergé par l'eau. Cependant, ce qui est paradoxal, c'est que on souffre du manque d'eau potable. On parle tellement de l'amour par-ci, par-là, mais le vrai amour, bien sûr, on peut trouver en Christ, qui a montré l'exemple. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oui, nous avons amélioré notre condition de vie avec le progrès technique, mais intérieurement, j'ai l'impression qu'il y a une sécheresse spirituelle, un manque d'amour. Et le Seigneur nous dit vraiment, aimez-vous les uns des autres, qui est très important. Aimez-vous en pardonnant leurs défauts. Aimez-vous comme le Christ nous a aimés. Cinquième impératif, c'est désirer le lait. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel, au verset 1 et 3, désirez le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et parveniez au salut. Le but de ce désir de la parole de Dieu, c'est pour grandir. Le Seigneur nous invite, nous ordonne en tout cas, de s'enrichir de sa parole de Dieu qui a une révélation spéciale et que même imprégné par la parole de Dieu, vous savez, il y a des gens qui apprennent par cœur des versets parce que dans les moments importants, le Seigneur nous fait rappeler à travers cet apprentissage par cœur de la parole de Dieu, nous met vraiment nous aide en tout cas à se sentir des situations difficiles. Désirer le lait, la parole de Dieu qui nous façonne davantage selon son image, ce qui est très important. Et puis, dernier impératif, dans verset 5, chapitre 2, 1 Pierre 2, 5, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Édifiez-vous. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Tout à l'heure, Dominique avait lu aussi au verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Tous ces impératifs, comme par exemple espérer, craindre Dieu, être saint, aimer Dieu, aimer le plus possible, désirer le lait, tout cela pour, en fin de compte, réaliser que nous sommes appelés à former une maison spirituelle, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Voilà un peu notre identité chrétienne. Et lorsque nous sommes vraiment, nous connaissons le but et les devoirs qu'on doit accomplir, bien sûr, nous ne pourrons pas accomplir, enfin, nous devons faire jusqu'à notre fin de vie, nous sommes en chemin, en tout cas, pour grandir en pratiquant tous ces impératifs. Et ensuite, il faut tirer les conséquences, c'est-à-dire que nous devons faire le bien au milieu du monde. Au milieu du monde. Le sujet d'aujourd'hui, c'est faire le bien au milieu du monde. Nous devons adopter... c'est important de... À quoi ça sert d'entendre, de communiquer avec le Seigneur, de lire sa parole, d'entendre sa voix, si on ne pratique pas, si on n'obéit pas. Alors que dans la parole de Dieu, il est clairement dit d'être compatissant. Il est clairement dit de prendre soin des veuves, des orphelins, des pauvres. Il est clairement dit d'aider justement mon prochain, comme le bon samaritain a aidé. Et c'est ce que nous devrions faire, faire le bien. D'ailleurs, en faisant le bien, en ayant une belle conduite, en ayant des belles œuvres, vous savez ce qui va arriver? Le monde verra l'amour de Dieu. Le monde verra que nous appartenons vraiment en Christ. Au verset 17, il est dit dans Pierre, honorez tout le monde, chapitre 2, verset 17, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi, etc., etc. Faire le bien est important. Ça doit découler vraiment, ce sont les conséquences de notre foi en Dieu. L'action sociale est importante aussi. Prendre soin des plus fragiles, des plus pauvres est aussi important. Ensuite, lorsque nous faisons le bien, le Seigneur Jésus, dans le sermon sur la montagne, a dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. À travers nos bonnes œuvres, même les gens du monde peuvent glorifier Dieu, peuvent voir vraiment la bonté que nous émanons à travers les bonnes œuvres, et même être touchés par ce que nous faisons. C'est pour ça qu'il est important d'apporter un bon témoignage auprès de nos familles, dans le lieu de travail, etc., etc. J'aimerais résumer, conclure. Oui, le Seigneur nous a appelés à atteindre ce but, c'est-à-dire, bien sûr, le salut de l'Éternel, avoir la vie éternelle. Mais dans ce processus, Dieu nous demande d'accomplir certains impératifs, comme espérer, comme craindre Dieu, comme être saint, comme aimer mon prochain, comme désirer la parole de Dieu, comme édifier et construire cet temple du Christ qui se forme à l'intérieur de nous pour aller dans le monde, pour être sel et lumière, pour faire du bien aux gens qui sont dans le besoin, afin que les gens voient à travers notre témoignage la gloire de Dieu et que, oui, comme j'avais dit dans la prédication, il suffit juste 3,5% de sel pour sceller, pour avoir le goût du sel dans l'eau de mer. Et il suffit vraiment que nous puissions, même si nous ne sommes pas aussi nombreux que cela, à travers notre action, à travers notre intégrité dans le Seigneur, le monde peut changer. Amen. Et nous avons vu aussi pas mal de témoignages, déjà pendant la présidence, des gens qui ont vu les actions de Dieu et qui ont été touchés. De même, je vous invite à être plus généreux à l'égard de mon prochain pour que le Seigneur puisse aussi agir à travers nos bonnes actions. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons vraiment te demander, oui, que nous puissions déjà être prêts à te recevoir, prêts, Seigneur, à ta rencontre, comme ces raisonnables qui ont préparé, Seigneur, cette huile pour leur lampe. Seigneur, d'eux-mêmes, nous voulons aussi, même si nous ne sommes pas parfaits, nous voulons essayer de vivre cette vie que tu nous demandes de mener, Seigneur, pour que le monde voit à travers notre vie, à travers notre témoignage, à travers notre bonnes œuvres, que le monde te glorifie. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Que tu nous restaures, que tu nous renouvelles davantage par ton esprit, que tu nous donnes beaucoup d'amour aussi pour le monde, parce qu'on ne peut pas se forcer à faire des choses. Il faut que l'amour qui est dans notre cœur puisse faire agir notre être. Et je te demande vraiment de nous remplir davantage de ton amour pour que nous puissions aussi faire de même à l'égard de mon prochain. Merci encore pour ta présence, de ce que tu vas faire. Et merci aussi parce qu'à travers le sel, tu fais déjà beaucoup de choses, mais nous savons aussi que notre Église peut aussi contribuer pour que cette gloire de Dieu se répande davantage dans le monde entier. Non seulement à travers le sel, mais aussi à travers diverses activités que nous faisons, nous, localement. Au nom de Jésus. Amen.